Quelqu'un aurait une aspirine ? Merci. Ce comprimé si simple à prendre a été inventé il y a 125 ans.
On estime que chaque seconde, il y a 2500 comprimés d'aspirine qui sont produits. C'est 40 000 tonnes par année de comprimés qui sont produits. Donc réellement, un médicament très consommé. Il est d'ailleurs entré dans le Guinness Book des records comme l'antalgique le plus consommé en 1950. Et puis c'est probablement aussi un des médicaments les plus anciens, puisqu'on connaît les vertus d'un de ses composés naturels depuis l'Antiquité.
Ah, quand même !
Microsciences, un podcast de la RTS.
Bienvenue dans Microsciences, le podcast qui synthétise les mystères pharmacologiques en réponses scientifiques. Caroline Samer est médecin-chef du service de toxicologie et de pharmacologie des hôpitaux universitaires de Genève, professeure à l'Université de Genève. Et oui, l'ancêtre de l'aspirine est connu depuis l'Antiquité.
On connaissait un dérivé naturel qui est présent dans différentes plantes, dans la myrte, dans la saule et puis dans la reine des prés. On connaissait ses vertus depuis l'Antiquité. Il y a déjà plus de 4000 ans, les Sumériens connaissaient les vertus de l'écorce de saule comme antidouleur, anti-inflammatoire. Puis ensuite, il y a les Égyptiens qui en ont parlé. On a notion de la saule dans le papyrus d'Hébert, qui est un papyrus très connu médicinal. Et puis ensuite, Hippocrate en a aussi parlé. Il faisait des décoctions, donc des thés à base de feuilles de saule pour traiter les douleurs liées à l'accouchement.
Et cette substance a d'ailleurs été étudiée sous toutes ses coutures. Dès le XVIIIe siècle, on expérimente formellement l'effet bénéfique des feuilles de saule sur la fièvre. Mais son principe actif, la salicyline, sera isolé que plus tard.
En 1876, on a eu la première étude qui a été réalisée avec ce composé. C'était un médecin écossais qui a évalué chez ses patients qui souffraient de rhumatisme articulaire aigu, chez 8 patients, en leur donnant 12 graines de salicyline toutes les 3 heures, si finalement cette salicyline avait un effet sur la fièvre et puis sur l'inflammation. Et puis la réponse a été oui, et ses travaux ont d'ailleurs été publiés dans le Lancet en 1876.
À noter que l'aspirine avec un grand A est une marque. Le mot est toutefois passé dans le langage populaire. C'est bien d'acide acétyl salicylique dont il faudrait parler.
Un brevet qui a été déposé en 1899, donc 2 ans après la synthèse de l'aspirine. Cette synthèse de l'aspirine, elle s'est finalement faite à partir d'un composé qui était présent dans la reine des prés, l'acide salicylique. Alors que l'aspirine, c'est l'acide acétyl salicylique. Donc il y a un chimiste de chez Bayer qui s'appelait Félix Hoffmann qui a réussi à acétyler cet acide salicylique pour en faire de l'aspirine. L'acide salicylique, il avait un problème, c'est qu'il avait un goût amer et puis qu'il faisait vraiment des troubles gastriques. C'est la raison pour laquelle Félix Hoffmann a voulu trouver une substance qui aurait un goût meilleur et puis moins d'effet au niveau gastrique. Et pour synthétiser cet acide acétyl salicylique, il a fait une réaction de condensation. Et le produit de condensation, c'était ce fameux acide acétyl salicylique, d'où le nom aspirine, le A pour acétyl. Et puis spirine, ça vient du nom botanique de la reine des prés, qui est Spirea ulmaria.
Et le mot aspirine entrera dans le dictionnaire de l'Académie française dans les années 1930. Ce qui m'étonne, vu d'ici, le 21e siècle, c'est que ce n'est que très tard qu'on a compris comment fonctionne l'aspirine.
Il y a un mécanisme qui a été trouvé finalement bien des années après que l'aspirine ait été mise sur le marché. C'est dans les années 70 qu'on a finalement mis en avant que l'aspirine inhibe des médiateurs de l'inflammation qui sont les prostaglandines. Et en fait, en bloquant la formation de ces prostaglandines, on a un effet anti-inflammatoire qui va donc agir sur les douleurs de l'inflammation.
Et fini tous les maux de tête.
Il y a des maux de tête qui ont une composante inflammatoire, d'autres comme des migraines ou peut-être d'autres médicaments pourraient marcher un petit peu mieux. Mais de manière générale, on dit que l'aspirine, elle est à la fois anti-inflammatoire, elle est aussi antalgique, donc elle agit quand même sur une vaste gamme de douleurs. Et puis elle est aussi fébrifuge, donc elle fait baisser la température. Donc si on pourrait avoir mal à la tête en raison d'une virose, d'un état fébrile, ça pourrait aussi avoir une efficacité.
Une petite molécule étonnamment simple. 9 atomes de carbone, 8 d'hydrogène et 4 d'oxygène. Sur papier, ça donne un hexagone avec 2 branches, mais vraiment simple, hein, pour un médicament magique.
plus récemment, enfin, dans les années 70, on a découvert qu'elle avait en plus des propriétés anti-agrégantes, donc elle fluidifie le sang. Et ça lui a finalement donné une nouvelle vie. On a commencé à utiliser l'aspirine à plus faible dose en prévention de l'infarctus, donc des crises cardiaques et puis des accidents vasculaires cérébraux chez les patients à risque.
Sauf que je ne suis pas née de la dernière pluie. Un médicament, quel qu'il soit, a forcément aussi des désavantages.
Effectivement, c'est finalement dans les années 30, quand on a inventé la gastroscopie pour aller regarder dans l'estomac, la paroi de l'estomac, qu'on s'est rendu compte que l'aspirine pouvait faire des érosions, des ulcères au niveau de l'estomac. Et c'est la raison pour laquelle, comme avec tout anti-inflammatoire du reste, il faut faire attention. Si on est sujet à des maux d'estomac et qu'on a un ulcère de l'estomac, il vaut mieux pas prendre de l'aspirine. Puis évidemment, comme elle est anti-agrégante, elle peut faire saigner. Donc elle est associée à des risques de saignement, saignement du nez, saignement des gencives, saignement au niveau de l'intestin.
Il n'empêche, l'aspirine, c'est un symbole. Il y a 125 ans, l'aspirine était synthétisée puis mise sur le marché. Elle s'introduit dans tous les foyers. Au fond, ce petit cachet blanc reflète son époque. Le XXe siècle marque un tournant dans l'histoire de la médecine. C'est le développement à grande échelle de la chimie pharmaceutique. Une fois qu'on a identifié les principes actifs dans le saule et la reine des prés, on les fabrique de toutes pièces. Mais bon, on va pas les balancer directement sur le marché. Si.
La recherche et le développement de nouveaux médicaments suit des étapes que les fabricants de médicaments se doivent de suivre à la lettre. Donc la première étape, c'est au niveau ce qu'on appelle préclinique, d'aller tester le médicament sur des cellules in vitro. Puis ensuite, on va tester ce médicament chez des animaux. On va regarder si le médicament est efficace, mais surtout aussi s'il est toxique. Et puis, si la molécule semble efficace et bien tolérée, c'est là qu'on va débuter les premiers essais cliniques chez l'être humain. Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les médicaments peuvent avoir un brevet qui va durer 20 ans. Et puis, ce développement des médicaments chez l'homme suit quatre phases. La première phase, c'est de tester le médicament chez des hommes en bonne santé, donc souvent des volontaires sains. Et puis, on va voir comment le médicament il se comporte dans l'organisme. La phase 2, c'est de voir l'efficacité du médicament chez un peu plus de patients cette fois-ci. Et puis, la phase 3, c'est réellement la phase où on va tester le médicament chez des patients dans une situation qui se rapproche de la vraie vie. On va comparer le médicament soit à un placebo, soit au traitement standard. Et on va faire ce qui s'appelle une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle.
Randomisée, contrôlée. Donc au hasard, mais pas complètement.
Randomisée, contrôlée, c'est finalement, on veut éviter des biais, que des patients soient plus favorables à un traitement ou à un autre dans un des deux bras.
Le bras, c'est donc le bras de l'étude. Donc on veut éviter qu'on ait une affection particulière pour une version ou une autre d'un médicament en développement.
C'est vrai que si on sait d'emblée qu'on prend un placebo versus un traitement potentiellement actif, peut-être qu'on va modifier l'issue du traitement. Et on sait que la randomisation, le fait de tirer au hasard les patients, va permettre de diminuer un certain nombre de biais. Et puis en double aveugle, ça veut dire que le patient qui prend le médicament et puis l'investigateur ne savent pas s'il s'agit d'un médicament, le nouveau médicament, l'ancien médicament ou le placebo. Et puis suite à ces études de phase 3, on va collecter un certain nombre d'informations sur l'efficacité, la sécurité. Et si le ratio entre l'efficacité et la sécurité est favorable, le fabricant du médicament va déposer une demande d'enregistrement. Et c'est ensuite les organismes de régulation, en Suisse c'est Swissmedic, qui vont juger si le médicament peut être mis sur le marché.
Oui, mais à la fin, ces molécules sont testés sur un nombre restreint de personnes.
Là, c'est pas la fin du développement du médicament, en tout cas de la collecte d'informations sur le médicament, puisque viennent ensuite les études de phase 4, qui sont les études de surveillance après commercialisation, où on va surveiller les effets indésirables, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, un effet indésirable qui serait rare, même un effet indésirable qui survient chez un patient sur 1000. On l'aura pas forcément détecté dans les phases précédentes, parce que finalement, il y a peut-être 1000-2000 patients qui ont été exposés aux médicaments avant la mise sur le marché. Donc on va détecter des effets indésirables rares ou des effets indésirables qui surviennent très lentement après qu'on ait commencé le traitement.
Et c'est un système qui ne marche pas trop mal. Sauf quand les entreprises pharmaceutiques ne collaborent pas. Un exemple récent. l'affaire du Levothyrox, un médicament contre les problèmes de thyroïde. Un médicament dont la nouvelle formule fait des vagues depuis 2017. Il faudra attendre octobre 2022 pour que les effets secondaires soient reconnus comme tels. Alexandra Richard, journaliste scientifique à l'Actu, nous fait le topo. Ce n'est pas le principe actif qui est en cause.
Des excipients, oui, ces substances qu'on ajoute aux médicaments pour améliorer le goût, la substance par exemple. Ici, c'était pour apporter plus de stabilité aux pastilles et un dosage plus précis, moins de variations d'une plaquette à l'autre. Ce n'est donc pas le principe actif du médicament qui a été changé, mais ces excipients, et ce n'est pas anodin, même si on ne touche pas au principe actif, un changement de formule, l'introduction d'autres molécules, peut être mal supporté par certaines personnes, comme ici, où la nouvelle version du Levothyrox a provoqué des effets secondaires comme des maux de tête, des insomnies, des vertiges, des crampes ou encore des pertes de cheveux. Le problème, et c'est ce qui est poursuivi par la justice, c'est le manque de transparence au moment où le laboratoire pharmaceutique a changé la formule de son médicament en 2017.
Chaque changement de composition d'un médicament peut entraîner des mauvaises surprises. Des fois, des bonnes surprises aussi, mais c'est plus rare. D'où l'importance de la notification et du suivi de chaque effet secondaire lié à la prise d'un médicament. C'est la pharmacovigilance. Pour en revenir à l'aspirine, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas respecté le protocole.
Alors non, l'aspirine, il y a eu quelques études qui ont été faites. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand Félix Hoffmann a synthétisé l'aspirine. Le chef de la section de pharmacologie chez Bayer a souhaité faire des essais avec cette molécule. Donc il a d'abord fait un essai chez l'animal, chez la grenouille. Et puis il a vu que l'aspirine accélérait le rythme cardiaque, faisait ce qu'on appelle une tachycardie. Et puis là, il a dit « Ah, on arrête le développement de ce médicament ». Et puis, il y a quelqu'un qui croyait vraiment que cette molécule avait un potentiel. Donc il a en quelque sorte été forcé à faire un essai clinique chez l'être humain. Il l'a fait chez 50 patients en Allemagne. Et là, il a vu que la molécule était aussi efficace que la précédente et qu'en plus, elle faisait moins d'effets secondaires. Et c'est suite à ces études que l'aspirine a été mise sur le marché 3 ans plus tard. Donc il y a eu certaines études chez l'animal et chez l'homme qui ont été faites, mais c'est pas du tout les étapes actuelles. Il faut savoir qu'il faut à peu près 12 ans à l'heure actuelle entre la découverte d'une substance et sa mise sur le marché.
Désormais, les étapes de développement et les essais cliniques sont le B.A.B.A. en matière de pharmacologie. Mais les essais cliniques doivent aussi avoir leurs limites, non ?
Là, vous pointez un point très important que finalement, les études qui sont réalisées avec les médicaments et les études cliniques en général sont souvent peu représentatives de la population. Les nouveaux traitements sont essentiellement testés chez les hommes en partant du principe que chez les femmes, les effets seront identiques et on sait que c'est finalement peu souvent le cas. Si on reprend l'exemple de l'aspirine, il y a certaines études qui ont montré que l'aspirine réduit le risque d'infarctus de près de 30% chez les hommes, mais pas chez les femmes, et qu'à l'inverse, elle réduit les risques d'accidents vasculaires cérébraux de 17% chez les femmes et pas chez les hommes. Donc clairement, il y a des différences entre les hommes et les femmes.
Bah, il n'y a qu'à inclure des femmes dans les études.
Pourquoi les femmes sont finalement peu incluses dans ces essais cliniques? C'est finalement parce que on avait cette crainte d'exposer chez des femmes en âge de procréer un enfant, un fœtus, à un médicament, quand bien même la femme n'est pas enceinte. Donc c'était par principe de précaution qu'on a exclu au départ les femmes des essais cliniques. On a aussi peu d'études chez les enfants. Et on sait aujourd'hui que les enfants, ce ne sont pas simplement des adultes miniatures. Il suffit pas d'adapter la dose d'un médicament qu'on donnerait chez un adulte au poids de l'enfant. Et puis, on a aussi une faible représentativité de certaines populations. Il faut le dire, la plupart des études sont faites chez des populations dites caucasiennes, de descendance européenne. Et on sait que certains patients peuvent réagir aussi différemment aux médicaments en fonction de leur origine. Donc les choses commencent à changer, il y a des initiatives en Europe, en Suisse, pour tenter de retourner la situation et d'inclure de manière plus diverse et plus représentative une population dans les essais cliniques.
C'est une bonne idée, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'un médicament, une pilule, quelle qu'elle soit, est standardisée. et nous sommes toutes et tous de taille et de poids différents.
C'est bien le problème. Il existe malheureusement une grande variabilité dans la réponse aux médicaments. Une variabilité qui peut être due à des facteurs individuels, comme vous l'avez dit, l'âge, le poids, le sexe, le fait d'avoir des, ce qu'on appelle des comorbidités, d'avoir des maladies, comment marchent nos reins, comment marche notre foie. Tous ces facteurs peuvent avoir une influence sur la manière dont les médicaments sont transformés dans l'organisme. On a aussi une influence de facteurs environnementaux, notre alimentation, notre mode de vie, puis aussi les médicaments qu'on prend, qui peuvent interagir avec d'autres médicaments. Et puis, on prend de plus en plus en compte des facteurs génétiques. Et ces facteurs génétiques peuvent aussi avoir une influence sur la manière dont on répond au traitement.
Il faut donc personnaliser les médicaments qu'on prend ?
Il y a une discipline qui s'appelle la pharmacogénomique, qui vise à mesurer l'impact de ces variations génétiques sur la réponse aux médicaments. Et à l'heure actuelle, à l'aide d'un simple test, une prise de sang, on peut effectuer une cartographie de notre ADN pour mieux prédire notre réponse aux médicaments et pouvoir adapter la posologie des médicaments. On sait qu'il y a à l'heure actuelle déjà plus de 100 médicaments pour lesquels on pourrait adapter les posologies en fonction de notre patrimoine génétique.
Et là, j'aurais besoin d'un exemple.
Le CYP2D6, CYP pour cytochrome P450. Alors cette enzyme, hein, c'est comme une petite usine dans notre corps qui va transformer les médicaments. Il existe une variabilité dans la quantité qu'on a de cette enzyme dans notre foie. Puis c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a un gradient nord-sud en Europe, par exemple dans les pays scandinaves. Très peu de personnes ont cette enzyme qui fonctionne trop rapidement. Mais plus on descend autour du bassin méditerranéen, plus c'est fréquent. C'est 10% en Sicile, dans les pays du Maghreb. Et puis ça monte même à 20-30% de la population à la Corne de l'Afrique qui a l'enzyme qui fonctionne trop rapidement. Donc pourquoi c'est important ? Ben, par exemple, quand on prend de la codéine, un médicament antidouleur, la codéine, elle doit être transformée par le CYP2D6 en morphine. Si l'enzyme ne marche pas, on prend de la codéine, c'est comme si on prenait un placebo, parce que la codéine n'est pas transformée en morphine. Mais si l'enzyme fonctionne trop rapidement, on va produire énormément de morphine, et là on est à risque de faire des effets secondaires. Et malheureusement, plus que des effets secondaires, on a des cas rapportés dans la littérature de décès suite à la prise de codéine chez des enfants. Des enfants qui prenaient de la codéine pour une simple opération des amygdales étaient métaboliseurs rapides de ce cytochrome. Et c'est la raison pour laquelle la codéine est maintenant contre-indiquée chez les enfants en Europe et en Suisse.
L'avenir sera donc à la personnalisation des médicaments.
Personnellement, je pense que de plus en plus, les médicaments seront adaptés à notre patrimoine génétique. C'est déjà le cas dans certaines disciplines, en oncologie notamment, où on va aller regarder, alors on regarde pas forcément le patrimoine génétique du patient, mais on analyse précisément les mutations génétiques dans la tumeur et on donne ce qu'on appelle les traitements ciblés qui visent à spécifiquement attaquer ces mutations. Mais dans d'autres domaines, en psychiatrie, en infectiologie, donc pour traiter la dépression, pour traiter certaines infections, en cardiologie aussi, on a déjà des médicaments dont la dose doit être adaptée en fonction de notre patrimoine génétique. Et c'est aussi finalement quelque chose qui peut être financièrement avantageux pour les entreprises pharmaceutiques, puisqu'un médicament testé dans l'ensemble de la population pourrait être moins efficace que le concurrent, mais dans une population très sélectionnée, où on aura fait au préalable un test génétique, on peut démontrer que la molécule sera en fait beaucoup plus efficace que le concurrent. Donc ces analyses génétiques sont de plus en plus réalisées aussi dans le développement des médicaments.
Et en attendant ces développements, il est temps pour nous de prendre congé de l'aspirine et de toutes ses copines. Si cet épisode vous plaît, notez-le sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur Apple Podcasts, Play RTS ou Spotify. Et si vous avez des questions chimiques ou scientifiques, écrivez-nous à microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel.
Pourquoi l'odeur de cannelle fait palpiter ma mémoire? Jusqu'où va le ciel? Ma grand-mère influence-t-elle ma vie? Les animaux se cultivent-ils? Pourquoi je joue sur mon téléphone portable? Suis-je conne? Qui m'enverra la prochaine question de Microscience?
Elle connaît tout des dosages et des équilibres en matière de podcast. Camille Dupont-Lahitte, coproductrice. Il maîtrise la synergie des sons. Jérôme Nussbaum, habilleur musical et réalisateur. Moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique formée à 65% d'oxygène, 18% de carbone et 10% d'hydrogène. Et vous vous demandez, vous, ce que prend Caroline sa mère quand elle a mal à la tête ?
En bonne pharmacologue, je prends le moins de médicaments possible. Mais si j'ai un mal à la tête qui est bien carabiné, je vais probablement prendre du paracétamol, qui est une molécule tout aussi ancienne que l'aspirine, dont on connaît bien les effets. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il faut savoir que cette molécule, bien qu'elle ait été mise sur le marché il y a 70 ans, sa découverte remonte peut-être à 140 ans. Et elle a été découverte par hasard suite à une erreur d'une pharmacie par un phénomène qu'on appelle la sérendipité. Mais ça fera peut-être l'objet d'un de vos prochains épisodes.
Ah, la sérendipité. Pas bête. En effet, ça mérite un épisode sur les découvertes scientifiques inattendues, dues au hasard et qui changeront complètement la donne.